Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Ces dernières semaines, Antoine, j'ai mis à l'essai une Mercedes-Benz E450 4MATIC cabriolet.
Donc, une super voiture.
C'est une super voiture, une voiture que je trouve magnifiquement belle.
Ouais.
Peu importe par quel angle on la regarde.
Ouais.
Peinture argentée, très classique, qui est très classique pour une Mercedes-Benz. Le toit souple, hein, parce que, on se rappelle qu'on avait pris une tendance à un moment donné d'avoir des toits rétractables, rigides, mais là, dans le cas de cette voiture-ci, on a un toit souple de couleur bleue, donc encore là, c'est magnifique. À l'intérieur, on a des accents bleus, donc le mariage des couleurs, le mariage des matériaux utilisés, franchement c'est magnifique.
L'éclairage de soir aussi, l'éclairage d'ambiance, c'est superbe.
Oui, moi j'ai une certaine réticence là, ça rappelle peut-être un club des feuilleuses là, mais en tout cas ça c'est
tu peux changer les couleurs.
T'sais. Oui, on peut changer les couleurs, mais en tout cas
c'est sûr que si c'était réglé au rose.
Les néons rouges, c'est peut-être
pas. Non, mais ça s'ajuste.
Oui, oui, mais enfin bref, oui, à l'intérieur c'est magnifique. Sellerie de cuir beige très pâle. Donc, quand on a le toit baissé, on n'est pas en train de cuire à l'intérieur. L'instrumentation numérique avec le système MBUX, tout ça est très, très, très intuitif. Je me permets quand même. Là. Complexe, mais très clair. Les ouais. icônes sont grosses. Tout est bien placé. Tout est pour ça, ça va. Le tactile est sensible, mais l'assistant vocal est Mercedes, dont on vante les mérites. Si on l'utilise en français, il a pas mal moins de mérites là. Il faut pratiquer notre anglais là, vraiment, parce qu'en français, c'est loin d'être génial. La mécanique, hein, j'en glisse un mot. Moteur à 6 cylindres, turbo compressé. C'est pas une bombe, hein, et c'est pas la vocation de cette voiture-là. C'est une belle et grande et grosse routière, mais avec un 6 cylindres turbo, donc il y a moyen de se déplacer, évidemment, comme bien des Mercedes. Il y a un délai à l'accélération, on ne s'en sort pas. Mais moi, le point qui m'a déplu le plus, c'est les suspensions. Parce que, bon, je viens de le dire, c'est une grande routière, mais à chaque petite craque dans la chaussée, chaque petite bosse, on la sent fois 100, là. Ça n'a aucun bon sens. Oui, les sièges...
Et moi, j'ai trouvé ça moins pire que dans d'autres modèles Mercedes que j'ai pu conduire.
Mais c'est ça! Ce n'est pas une AMG. C'est une E450, et là, j'ouvre les guillemets, ordinaire. Donc, moi, je me place à la... C'est quoi le client type de cette voiture-là, là? Quelqu'un entre 60 et 70 ans qui joue au golf, par exemple, là, c'est ce genre de client-là que j'imagine.
La raison pour laquelle tu portes cette semaine un polo de golf?
Oui, un polo de golf, parce que l'été tire à sa fin, c'est le moment ou jamais de les porter.
Les user.
Oui, exactement. La fermeté des suspensions, évidemment, on avait des jantes, là, si ma mémoire est bonne, de 21 pouces, donc c'est sûr que ça aide pas pour le confort, mais j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ferme. Et malheureusement, ça gâchait l'expérience complète de la voiture, parce que pour le reste, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher.
Tu vois, moi, je l'ai conduite, cette voiture-là, puis je ne peux pas dire que ça m'a frappé autant que ça t'a frappé, parce que, justement, je trouvais que c'était moindre que dans le cas de d'autres Mercedes que j'avais roulé, où là, on se fait carrément brasser la cage, par exemple, dans une CLA AMG, que j'ai trouvé complètement mésadapté aux routes du Québec. Puis ça, évidemment, c'est une vocation plus sportive.
Ben, c'est ça.
Mais même quand tu
là, on s'attend à une voiture classique,
ouais.
Et on doit avoir un niveau de confort plus grand, c'est tout.
Oui, oui, absolument. Puis Mercedes doit travailler sur ses suspensions, parce que c'est effectivement une faiblesse dans bien des modèles, et ça c'est décevant. Ça, c'est sans compter le fait que les amortisseurs pneumatiques de plusieurs modèles sont très fragiles, brisent facilement et coûtent une fortune à remplacer. Sans compter aussi que le flanc des pneus étant très mince, tu t'exposes à des pneus explosés sur des nids de poules. Tu sais qu'un des produits FNI, vendu par les directeurs commerciaux des concessionnaires les plus populaires chez Mercedes, c'est l'assurance pneus et jantes.
Et là là.
Que vous allez payer entre 1500 et 2500 $ pour une location 4 ans, mais que vous allez certainement rentabilisé.
C'est certain.
Parce
c'est certain.
Que d'abîmer une jante ou de fendre un pneu run flat, par exemple, ça risque de vous arriver.
Si on demeure en périphérie souvent. De Montréal ou sur l'île de Montréal, c'est certain qu'on rentre dans son argent. Là, c'est pas un problème. Là.
Bon, moi, de mon côté, Mitsubishi Outlander, plus pragmatique comme produit.
Mais beaucoup plus laid.
Ouais. Là-dessus, on s'entend, le look, ça me revient pas. OK?
Non.
Fin de la parenthèse. Bon, on sait que le nouvel Outlander, c'est une base de Nissan Rogue. On sait que sa vocation n'est
c'est
pas
plus
tout
qu'une
à fait...
base là, de Nissan Rogue. Là.
Oui,
c'est tout
fait,
d'un Nissan Rogue.
Ben, c'est châssis, c'est évidemment motorisation, suspension qui sont différentes et rouage intégral qui est quand même différent. Là, ça, il faut le mentionner. Et évidemment, ça, c'est un véhicule à trois rangées de sièges, contrairement au Nissan Rogue qui n'en offre que deux.
Et par le passé, l'Outlander avait cette caractéristique-là d'avoir une troisième rangée. Et ça fait toujours partie des rares VUS compacts à trois rangées avec finalement le Volkswagen Tiguan depuis que le Journey est disparu.
Oui, exactement. Et tu vois, moi, je l'ai senti où j'ai eu l'impression d'un véhicule un peu plus gros que le Nissan Rogue et je sortais d'une Subaru Outback quand j'ai pris le volant de ce véhicule-là. Et ironiquement, le Outlander que je conduisais coûtait à quelques centaines de dollars près le même prix que la Subaru Outback Wilderness XT que j'avais conduit la semaine d'avant.
Et
j'ai même pas besoin de te dire ce que je choisirais entre les deux.
En fait, j'ai même pas eu besoin de poser la question.
Bon, c'est la Subaru tout de suite pour son dynamisme, pour sa puissance aussi, parce que la Subaru, après égal, a un moteur turbo pas mal plus nerveux. Mais il en demeure pas moins que le produit Mitsubishi, pour moi, est un véhicule convaincant. Tant qu'on va pas dans les hautes sphères de la gamme. Parce que rendu à 44, 46 000 $ là, je fais wow, on peut peut-être trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Et de toute façon, la troisième rangée, elle est complètement inutile.
C'est vraiment une banquette d'appoint, là. Faut s'en servir très ponctuellement.
Il y a absolument pas de coffre quand vous l'utilisez. Et pour moi, c'est juste un encombrement parce qu'évidemment, considérant que elle prend de l'espace dans l'espace utilitaire, ben là, vous perdez en volume cargo pour trimballer tout le temps une troisième rangée que vous n'utiliserez à peu près jamais. Parce que si vous avez besoin réellement d'une troisième rangée de sièges, c'est pas le véhicule que vous allez acheter, c'est certain. Alors, ça, pour moi, c'est pas un gros avantage que d'offrir ça.
Ça peut dépanner à l'occasion, mais vraiment pas plus que ça.
Et encore. Alors, voilà. Tu sais, c'est pas... Mais je te dirais, par contre, que côté conduite, c'est confortable, c'est mieux sonorisé qu'avant. L'aménagement intérieur, c'est celui d'un Rogue. Alors, l'ergonomie, ça va. La présentation diffère un peu, par exemple. Donc, la planche de bord, la façon dont la console est conçue, c'est différent de chez Nissan. Et c'est pas... un désavantage ou un avantage, c'est vraiment une présentation qui est différente parce que côté ergonomique, c'est à peu près au même niveau. C'est très sombre, c'est très noir. Le pavillon est noir, les piliers sont noirs, la sellerie de cuir est noire. Alors moi, j'aurais éclairé ça un peu, même si un toit ouvrant, d'avoir un pavillon à partir des piliers qui est gris pâle, ne serait-ce que pour que ça soit un peu plus clair à bord du véhicule, je pense que ça serait un avantage. Mais sinon, c'est un véhicule qui va bien. Un élément qui m'a agacé au niveau de la conduite, l'imprécision de la direction. Il y a un léger flou qui t'oblige tout le temps à corriger. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a des roues de 20 pouces là-dessus? Est-ce que c'est parce que le calibrage de la direction assistance électronique, elle est différente de celle d'un Nissan? Je sais pas, mais ça, c'est le point qui m'a agacé. Et évidemment, je rappelle que je sortais d'une Subaru Outback qui, elle, a une direction quand même assez précise et qui est une voiture très maniable. Alors, considérer le Outlander pour ce qu'il est, c'est-à-dire un véhicule polyvalent, un véhicule qui sera assurément très solide. Il y a la boîte CVT à l'intérieur, évidemment, qu'on connaît de Nissan et on espère qu'on a réglé le problème. Mais au niveau du rendement, j'ai pas grand-chose à dire. Ça va bien. On connaît l'efficacité du rouage intégral Mitsubishi et on connaît aussi...
On a une consommation équivalente au Rogue, je présume?
8.3, 8.4 litres au 100. Je me tenais là-dedans. Alors, très raisonnable pour un véhicule de ce format-là, 4 roues motrices. Et l'avantage, une garantie de 5 ans. Par rapport à chez Nissan. Alors, si vous voulez louer sur un terme de 4 ans, bien, ou même 5 ans, ce que je recommande pas, bien, vous êtes garanti tout au long de la location, ce qui n'est pas le cas si vous allez louer un Nissan. Alors, considérez cet élément-là aussi lorsque vous ferez votre achat ou votre magasinage.